Elle commence par Vayikra el Moshe. Vayikra el Moshe. Il n'y a pas de sujet. Mikara. Qui est-ce qui a appelé Moshe? Voilà, ça aurait dû commencer, on est, c'est un nouveau livre, c'est quand même pas, c'est un nouveau Chumash. On se dit, Vayikra Hashem el Moshe, non? Non, Vayikra el Moshe. Comme si il y a eu une kriya en direction de Moshe. Il y a eu un appel en direction de Moshe. Alors les Chachamim disent, évidemment que c'est Hachem qui appelle Moshe, et il l'appelle Moshe, Moshe, et Moshe Rabbé nous répond Ineni. C'est comme ça que Abraham Avinu nous répond, Yaakov Avinu nous répond Ineni. Quand ils sont interpellés, ils répondent, me voici, ça veut dire je suis totalement disponible, quoi que tu veuilles me faire faire, quoi que tu me demandes, je suis disponible. Alors pourquoi est-ce que c'est situé ici au début du Sefer Vayikra? D'autant que les Chachamim nous disent qu'en réalité, cette kriya, là, cet appel, c'est un appel qui ne sera pas écrit à chaque fois, mais qui en réalité a lieu chaque fois qu'Hachem va parler à Moshe. Chaque fois que Hachem va parler à Moshe, il commence par l'interpeller, Moshe, Moshe, Moshe dit, je suis prêt à tout. Il est dit, me voici, je suis prêt. Et Hachem commence à lui parler. Et cet appel-là, c'est mentionner le nom de la personne, c'est un appel de Chiba, on s'appelle. C'est un amour, c'est une manifestation de l'amour d'Hachem pour Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas pourquoi c'est. Pourquoi c'est ici? Pourquoi c'est pas la première fois que on aurait dû écrire ça la première fois qu'Hachem a parlé avec Moshe? Ou bien justement, c'est seulement à partir de maintenant, à partir de la mise en place de Mishkan, etc. On entre dans une espèce de vitesse de croisière. Et donc, et Moshe est installé en quelque sorte. Parce que la suite du verset, c'est après avoir dit cela, il y a Vaïdaber Hashem Elav Meoel Moed. On aurait pu écrire Vaïkra El Moshe Meoel Moed. Les morts. Donc, ça veut dire que cette cria, elle précède un Vaïdaber. C'est vraiment pas. C'est, la kriya, c'est pas « je commence à te parler » en quelque sorte. C'est d'abord l'établissement de la relation. C'est comme « allô ?»« Allô ?» C'est-à-dire, il y a le « allô » de celui qui appelle et le « allô » de celui qui répond. Et puis après, on peut commencer à parler. Une espèce d'établissement de la, la conversation. Aujourd'hui, ben, dans les messages, alors, il y a des gens qui systématiquement, quand ils vous écrivent, commencent par dire bonjour et éventuellement même comment ça va. Et puis, au bout d'un moment, on dit plus bonjour, on commence comme si la conversation s'étalait, alors que peut-être la dernière fois qu'on en parlait, c'était le matin, et puis maintenant, on parle des heures après. Mais on recommence pas bonjour ou bonsoir, etc. On continue la conversation. Rachid dit que c'est comme ça que les malachim s'interpellent eux aussi. Le kara, zé, elzé, puis ensuite, il y en a qui dit kadosh. C'est bien, il y a une partie des malachim qui disent kadosh, les deux, ils disent baruch, les ofanim, ça dépend lesquels. Mais d'abord, le kara, zé, elzé. Ils s'interpellent l'un l'autre. Là, cette interpellation, elle est. Là, on pourrait comprendre là-bas qu'il s'interpelle parce que on va faire un truc, on va faire un duo. Puisqu'il y a les uns qui disent Kadosh, les autres qui disent Baruch. Alors, on comprend bien qu'il fallait bien se mettre d'accord. Il fallait bien dire OK, vous êtes prêts? On est prêts? Vous êtes prêts? On est prêts? Alors, ici, Rachid dit, c'est un lachon chiba. C'est-à-dire, c'est pas pour dire, c'est mon cher Abinou, il répond, je suis prêt. Mais Hachem l'a interpellé pas pour lui demander est-ce qu'il est prêt. Il l'appelle, c'est une marque d'amour, en fait. Ça veut dire, essayez voir de parler à votre épouse, quoi. Chaque fois que vous lui dire quelque chose, vous l'appelez. Deux fois. Et elle répond, OK, oui. Et à ce moment-là, vous dites ce que vous voulez dire. Ça va rallonger la discussion. Alors, cet appel-là, il est écrit chez nous avec, il est écrit pour Moshe Rabbeinu avec un petit aleph. Un aleph qui est complètement absent quand Hachem appelle Bilam. Quand Hachem va parler à Bilam, il l'appelle. Mais c'est pas un chiba. Et il l'appelle, c'est tout, il faut l'appeler. Et donc, si on enlève le Aleph, alors il y a une racine comme celle de Mikré, quoi. C'est comme si c'était, bon, c'est au hasard. C'est, voilà, j'ai quelque chose à te dire, mais c'est pas, on n'est pas en conversation. Ensuite, comment est-ce que ça parle? C'est marqué donc que Vaïdaber Hachem Elav. Donc cette fois-ci, ce n'est pas marqué Vaïdaber Hachem El Moshe. Là, on peut se contenter d'un pronom, parce qu'on a déjà cité le nom de Moshe. C'est quelque chose que je ne sais pas vraiment interpréter, cette histoire de la Kriya, pourquoi la Kriya n'est pas présentée comme Vaikra Hashem El Moshe? Vaikra El Moshe. C'est pour ça qu'après, il faut dire Vaidaber Hashem Elav. Parce que sinon, comme on n'a pas mentionné Hashem encore, il est sous-entendu qu'est-ce qu'il pourrait bien appeler Moshe. C'est quand même étonnant. Mais je ne sais pas pourquoi c'est. Maintenant, bien sûr, il y en a d'autres qui lisent, donc Mefarshim, le Ramban et d'autres, qui disent que, en fait, on avait terminé en disant que le Mishkan était rempli de la présence divine et que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas ou n'osait pas entrer. Et donc, ça nécessite ici, donc c'est comme si le Vav ici, c'est l'espèce de chibour avec ce qui a été dit en dernier, dans Sefer Shemot. Et donc, c'est un lien pour dire que, puisqu'il n'osait pas entrer, alors Hachem l'a appelé. Alors, on sait d'où Hachem lui parlait. Il lui parle « Me'ohel Moed ». Où était Moshe? On ne nous dit pas ici. Alors, est-ce qu'il était, si on dit comme on a vu avant, que il est entré dans le Ohel Moed, il est entré là-bas. Hachem lui parle du Ohel Moed. On sait que c'est plus précis que ça, qu'Hachem va lui parler du Kaporet, même de entre les deux Krouvim. C'est comme ça que la voix semblait sortir d'entre les deux Krouvim, entre les deux chérubins qui sont sur le couvercle de Aaron HaKodesh. Alors, Rashi a compris que Rashi ramène, il a un Dibura Matril qui s'appelle Vaikra El Moshe. C'est toujours le même Vaikra El Moshe, dont il a dit que c'est quelque chose qui est dit ici, mais qui va, sans être répété à chaque fois, qui va se répéter à chaque fois. Mais néanmoins, il donne un pshat sur le pasouk lié avec ce qui va se dire ici. Il dit Akol Oler ou Magia le Osnav. Vaikra El Moshe. Rashi dit, en vérité, Hachem, il parle fort, tout le monde. D'une voix, du point de vue de l'émission, tout le monde pouvait entendre. Néanmoins, la parole n'arrivait que dans la bouche, que dans l'oreille de Moshe. Kol Israël, lo shomim. C'est-à-dire, les Bnei Israël n'entendent pas. Pourtant, Hachem parle. À quoi ça sert qu'il parle, que l'émission elle soit pour tout le monde, si finalement il n'y a qu'un seul récepteur, mon cher Rabbeinu? Pour dire qu'en fait, ça concerne tout le monde. Mais ça va passer à travers mon cher Rabbeinu. Et il y a c'est marqué « Elav ». Hachem lui parle à lui. On entend c'est à lui qu'il parle, sous-entendu, et pas à d'autres. Mais qui sont les autres? L'autre, c'est Aaron. Aaron est à côté de Moshe Rabbeinu et lui, il n'entend pas. Des fois, bien entendu, pour qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un émetteur et qu'il y ait un récepteur qui soit sur la même longueur d'onde, si on veut. Alors probablement que le seul récepteur sur la longueur d'onde sur laquelle Hachem a émis les choses, c'était Moshe. Les autres, ils n'entendent rien parce que leur récepteur n'est pas branché sur la bonne longueur d'onde. Donc il faut une préparation qui probablement est seul Moshe peut la donner pour pouvoir entendre. Hachem parle. Alors, étant donné qu'il y a quelque chose qui est dit avant chaque parole, Chazal se demande, est-ce qu'avant chaque interruption, avant chaque paragraphe, par exemple, changement de sujet, quoi, est-ce qu'il y a aussi un appel? Alors, on dit non, il y a un appel. L'appel lui-même, il n'existe que avant qu'une parole divine soit dite. Mais alors à quoi servent les interruptions? Alors Rashi dit, les interruptions, elles servent parce qu'il faut que Moshe Rabbeinu puisse réfléchir à ce qui a été dit entre-temps. Et si, pour la parole d'Hachem, Moshe Rabbeinu doit réfléchir, à plus forte raison, quand on entend quelqu'un d'autre parler, un élève écoute son maître parler, il faut qu'il y ait des pauses pour qu'il ait le temps de réfléchir. Donc ça, un problème, c'est le temps de réfléchir. Donc il faut prendre le temps de réfléchir pour savoir ce qu'on a entendu. Éventuellement, pour prendre conscience qu'on n'a peut-être pas compris ce qu'on a entendu. Ça peut s'entendre de plusieurs manières. Je sais que Rav Volbe Zichron Levracha, il était très fâché en général quand les gens venaient tout de suite lui poser des questions après son chiot. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir, tu es déjà en train de poser des questions. Réfléchis d'abord. Et ensuite, je vais poser des questions avec plaisir. Donc, c'est important de voir qu'il faut réfléchir à ce qu'on entend. On a pourtant entendu, on peut même imaginer avoir compris superficiellement, ou compris peut-être tout à fait. Néanmoins, il faut réfléchir. Éventuellement, critiquer ce qu'on a entendu, ce qui va permettre peut-être de mieux entendre, de mieux comprendre ce qui a été dit. Et alors, cette parole, tu vas parler au Bnei Israël et tu vas Martha Lahem, tu vas leur dire Adam qui akriv mikem korban l'Hachem. Vous voyez que cette phrase, elle est étrange. On aurait plutôt imaginé de dire que la phrase se présente Adam mikem qui akriv. Et pas Adam qui akriv mikem. Un homme qui approche de vous. Un korban pour Hachem. On devrait dire un homme parmi vous qui approche un korban. Non. Le Mikem, il est après. Donc c'est un peu étrange, ce Mikem, parce que c'est comme si Mikem, ça allait sur ce qu'on approche. Un homme qui approche une partie de vous. Donc imaginez, c'est un homme qui est en train d'approcher comme Corban, je sais pas, quelques personnes. Il va apporter, je sais pas, comme l'Avdil, comme chez les Incas, on va approcher quelques jeunes gens. On va les offrir, eux, ils les offrent au soleil, pour qu'ils veuillent bien se lever le lendemain. Alors c'est quoi, Joe? Pourquoi le Mikem, il laisse cet endroit-là? Bon, il apporte un corban. Alors, bon, le grand problème, c'est comment on traduit en français corban. Il est clair que la traduction sacrifice, elle dit rien de la racine karov, mais pourtant elle dit des choses concernant le sacré, là, dans le sacrifice, qui ne se trouve pas dans le mot corban. Le stone, par exemple, ils ont traduit offrande. Alors, c'est vrai que les premiers corbanotes qui ont été offerts, c'était vraiment les offrandes. Ce que Caïn et Abel ont donné à Hachem, c'était les offrandes. Ils lui ont offert le produit de, etc. C'est bien une offrande. Mais il y a des situations, il y a eu une situation dans laquelle le corban n'était sûrement pas une offrande en tant que telle. Une offrande, c'est un cadeau. Et tous les corbanotes qui sont khatat, hacham, etc., c'est des cadeaux. Et comment est-ce qu'il faut entendre le bélier qu'Avraham Avinu a approché après la Akedah? Il a approché un corban. Ce corban, le fameux bélier qu'il a trouvé et qu'il a substitué à Yitzhak Avinu. Hachem lui a interdit de toucher au corps d'Yitzhak. Il était assez malheureux. Et il a regardé, il a trouvé le fameux bélier qui date de Shechet Yemei Bereshit, qui était pris dans un buisson, là. Il est allé, il l'a pris, il en a fait un corban. Une hola. À la place d'Yitzhak Avinu. C'est tellement à la place d'Yitzhak Avinu que quand on a cherché on a cherché à retrouver l'emplacement exact au deuxième Beth Amikdash, l'emplacement exact du Mizbeach. Vous voyez pas, on a trouvé à un certain endroit une urne sur laquelle il était marqué que c'était les cendres de Yitzhak. Bon, Yitzhak n'a jamais été brûlé pour qu'on ait des cendres. Mais ce sont des cendres du bélier qui a été substitué à Yitzhak. Et du coup, dans les korbanot, on doit approcher, par exemple, quand on a fait une faute, ou de façon générale, quand ce n'est pas vraiment une offrande, C'est une substitution. Le mot korban veut dire, c'est construit sur la racine koufreshbet, c'est-à-dire karov, proximité. Donc c'est une demande, c'est un essai de se rapprocher d'Hachem. Mais en quoi est-ce qu'en offrant un korban, en offrant une bête sur le misbéach, en quoi est-ce que ça nous rapproche d'Hachem? Alors, comme vous savez, quand on apporte un korban, on fait ce qu'on appelle smicha sur ce korban. La smicha sur le korban, c'est de s'appuyer de toutes ses forces sur la tête de l'animal. En quelque sorte, je charge l'animal de moi. Et donc cet animal, il vient en substitution. C'est que il faut, quand quelqu'un apporte un korban, il faut qu'il s'imagine que ce qui va advenir au korban devrait, d'une certaine manière, lui advenir à lui. Dans les korbanot, on sait que les sacrifices humains, les korbanot humains, sont interdits. Mais, semble-t-il, ce qu'on garde, c'est l'idée du sacrifice de la personne. L'idée de m'approcher d'Hachem, c'est quoi, en fait, s'approcher d'Hachem? Ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut entendre dans s'approcher d'Hachem? Qu'est-ce que vous diriez? Si on vous demande, qu'est-ce que ça veut dire s'approcher d'Hachem? Vous pouvez ouvrir les micros. Est-ce que vous entendez s'approcher de l'Hachem? C'est quoi ça, s'approcher de l'Hachem?
Suivre la voie.
Suivre la voie
qui nous a donné.
Par exemple, oui, mais c'est quoi? Ça veut dire pas suivre la voie. S'approcher d'Hachem, c'est faire les mitzvot. Alors, j'ai pas besoin d'un korban pour ça. Le korban, c'est autre chose que les mitzvot. C'est une mitzvah dans certains cas d'apporter un korban. Mais c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah comme les autres, justement. Bon, on va reprendre cette question. Je vais d'abord vous rapportez, c'est une remarque de Rav David Hofstetter, l'inventeur de Dirshu. Il fait remarquer que dans les Nevi'im, dans les prophètes, on voit que les prophètes, ils font des reproches au Bnei Israël parce que le Bnei Israël ne se conduisent pas bien. Mais on voit presque jamais qu'ils leur font, enfin, on voit beaucoup moins fréquemment, qu'ils leur font des remarques sur les mitzvot qu'ils ne font pas ou qu'ils ne font pas bien. Par contre, il y a toujours des psukim qui disent, ou Hachem dit, j'en ai rien à faire de vos korbanot, j'ai rien à faire de vos olot, que ce soit Yeshayahu, Yirmiya, tous les deux disent toujours, Qu'est-ce que vous croyez? J'ai besoin, vous croyez, les korbanot de Shabbat, de Yom Tov que vous m'amenez? J'en ai rien à faire. Pourquoi il n'en a rien à faire? Parce que c'est une démarche d'approche. Je veux m'approcher. Je sais, pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est sûr que korban veut dire que je veux m'approcher. Si maintenant quelqu'un est un rachat, quelqu'un a un statut de rachat. Hachem dit les corbanotes d'arrachage, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que le rachat, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'approcher d'Hachem. Et donc, le reproche des Nevi'im, c'est un reproche de ils ont dit, vous êtes complètement inconséquent. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous approchez, vous amenez votre corban pour vous approcher, et en même temps, vous dites, non, mais je ne veux pas m'approcher. Vous restez rachat. Vous ne faites pas de chouva sur ce que vous avez fait. Donc, là, à partir du moment où ça devient, où c'est plus logique, alors, c'est imparable. Vous ne faites pas bien les mitzvot, alors ils peuvent dire, oui, on est fatigué, c'est difficile à faire, etc. OK. Mais là, c'est une contradiction dans les termes. C'est pour ça que c'est tellement grave. Ça n'a pas de sens. Vous faites des choses qui sont complètement débiles. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas, il s'attacherait les pieds et puis ensuite il dit, je veux m'approcher, je veux avancer. Ça n'a pas de sens. Et quand on fait des choses qui n'ont pas de sens, alors ça, c'est impardonnable. Les êtres humains, on a un sechel, faire des choses qui sont complètement non-sens, ça, c'est impardonnable. On ne soit peut-être pas à la hauteur de ceci ou de cela. OK. Par exemple, un rachat qui fait une mitzvah, la mitzvah, elle est faite. Elle n'est peut-être pas très bien faite, mais la mitzvah, elle est faite. Hachem a dit, vous faites ces gestes-là, ça a tel et tel impact. Fais la mitzvah. En même temps, par ailleurs, le type, il est un rachat. OK, c'est un rachat. Il va payer pour ce pourquoi il est devenu un rachat, mais la mitzvah, elle est faite. Elle n'est pas au top niveau, bien sûr, mais elle est faite. Et c'est pas contradictoire dans les termes. Parce qu'une mitzvah, c'est pas fait pour s'approcher d'Hachem. La mitzvah, c'est faire le ratson Hachem. Quand on fait le ratson Hachem, on se trouve approché d'Hachem. Mais c'est pas une façon de s'approcher. C'est pas la démarche de s'approcher, la mitzvah. OK, c'est donc la démarche de s'approcher dont on parle dans un korban. Alors, c'est quoi la démarche de s'approcher? Comment est-ce qu'on peut dire, de façon simple, que s'approcher d'Hachem, c'est quoi s'approcher d'Hachem? C'est quelle est la posture de quelqu'un qui s'approche d'Hachem? Quand vous pouvez le dire en allemand. Non, c'est pas. Beten, c'est prier, c'est pas encore s'approcher d'Hachem. Il a répondu que c'était prier. Non, c'est pas encore s'approcher d'Hachem.
Peut-être celui qui fait tchouva, non?
Non, peut-être s'approcher d'Hachem, c'est... C'est prendre conscience de la hauteur divine, oui, quand on s'approche d'Hachem. Donc ça veut dire, c'est s'écraser devant Hachem, s'approcher d'Hachem. La seule posture devant Hachem, c'est je m'écrase complètement. À ce moment-là, je suis au plus près d'Hachem. Celui qui s'écrase devant Hachem, il a compris ce qu'il était par rapport à Hachem. Donc, il s'approche d'Hachem. tant qu'on s'imagine qu'on peut se tenir sans que ça soit une mitzvah, comme celle dans la prière, par exemple, se tenir devant Hachem, alors il faut effectivement s'écraser devant Hachem, même si je ne suis pas en position de demander quelque chose. Donc je me tiens devant Hachem et je ne peux rien faire du tout. Je prends conscience que je suis totalement nul devant Hachem. Et que je prends conscience, je m'écrase complètement devant Hachem. Et le rachat, c'est celui qui pense que non, qui fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Je fais les choses comme je veux. C'est ce qu'Amalek veut. Je fais comme je veux. Quand je veux, comme je veux. Donc, il faut approcher le corban. Alors, ça veut dire que ça ne peut se faire que si on s'approche soi-même, quelque part. Si au moment où tu envoies le corban, tu ne t'approches pas d'Hachem, tu restes dans ton... Tu restes dans ton... Dans ton... Dans ton monde, dans ton... Quant à soi, etc., dans ta gava, dans ton orgueil, etc., tu ne peux pas t'approcher d'Hachem. Par conséquent, c'est inadmissible d'envoyer un corban. Alors, curieusement, la Torah, ici, elle dit « Ve'amarta aleim, Adam ki yakriv mikem korban ». En général, la Torah, elle n'utilise pas le mot « Adam », elle utilise plutôt le mot « Ish ». Pourquoi est-ce qu'on a appelé, on a utilisé ici le mot « Adam » ? C'est par référence avec Adam Arishon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une halakha tout à fait très 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 importante. Rashi le rapporte ici. Adam Arishon, quand il a apporté un korban, il avait le monde entier à sa disposition. Il était tout seul. Donc, le korban qu'il a apporté, c'est un korban qui lui appartenait. Donc, le Adam d'aujourd'hui qui veut apporter un korban, il doit veiller à se trouver dans la même position que celle d'Adam Arishon. Seulement, le problème, c'est que le monde entier n'est pas à nous. Et par conséquent, ne pas être dans la situation d'Adam Arishon, c'est être en état d'être un voleur. Si quelqu'un est un voleur, quelqu'un vole, et qu'il l'objet volé, il l'approche en korban, alors il n'est pas dans la situation de Adam, c'est pas un korban. Hachem, c'est marqué qu'Hachem sonnait Gezel Beola. Hachem, il a de la haine, il est le voleur qui apporte l'objet de son vol en Ola. Pourquoi justement la Ola? Parce qu'on pourrait se raconter une petite histoire du genre, le vol, c'est quand... je prends quelque chose à quelqu'un pour l'utiliser pour moi. Mais à partir du moment où j'en fais un korban, et c'est un korban hola, c'est un korban dont personne ne va manger la viande. Donc c'est un korban dont on n'a aucun profit matériel. On pourrait penser que là, c'est pas tellement important que si c'est du vol, puisque c'est pas vraiment du vol. Il a volé pour apporter ça comme corban. Je ne bénéficie en rien, je ne vais pas manger cette viande. Ni moi, ni mon copain Cohen. Je ne vais pas dire à Apollo de venir manger la viande, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que c'est une Ola, c'est entièrement consumé. Donc on pourrait penser, là, c'est moins grave. C'est pour ça que c'est marqué, déjà là, c'est la Sina de la Chine. Pour ce Gezelbeul. Donc, quelque part, il y a donc une référence à Adam Harishon, à la démarche d'Adam Harishon, quand on apporte un corban. Donc, à part le din de Gezel, il y a quand même cette espèce de référence à quelque chose, qu'un corban, c'est quelque chose qu'on a fait depuis la naissance de l'humanité d'apporter les corbanotes. Donc c'est vrai que les corbanotes qu'ils approchaient, c'était plutôt des offrandes, comme on dit, des cadeaux. Pourquoi ils offraient des cadeaux à Hachem? Donc, comme vous savez, il y a la fameuse Shita du Rambam dans le Moreh Nevouchim, qui donne lieu à ce qu'on appelle la dispute sur les corbanotes, sur le sens des corbanotes. Le Rambam considère la chose suivante. Le Rambam considère que Akadosh Baruch Hu a donné des corbanotes au Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Sortis d'Égypte, on reçoit des mitzvot, et dans les mitzvot, il y a les korbanot. Et Rambam dit que c'était nécessaire, parce que les Bnei Israël en Égypte, ils avaient absorbé littéralement l'idolâtrie, ils étaient idolâtres. Et Hachem veut les faire passer d'une idolâtrie polythéiste à une forme monothéiste, non idolâtrique, très abstraite, d'accord ? Une seule divinité qui est toute puissante. Quand on dit Rambam, Hachem savait que c'est trop difficile pour des gens qui sortent d'Égypte de renoncer complètement à ce qui était, disons, des rites. Des rites inséparables de toutes les pratiques religieuses. Rambam, il donne un exemple qu'on peut discuter, on peut tout discuter d'ailleurs, mais il dit que ce serait comme si on disait aux gens d'imaginer une religion sans prière. Basé uniquement sur un attachement intellectuel à Hachem. Donc Hachem, ce qu'il a fait, c'est il a pris ses pratiques et il leur a enlevé tout le côté immoralité, toute prostitution sacrée, tout ce machin, toute cette immoralité qu'il y a autour de l'idolâtrie. Quand il a réduit au minimum, en quelque sorte, tout ça. Et puis, ensuite, il décrit que c'est allé en étant de plus en plus sévère ou plus en plus élégant. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on a interdit les hôtels domestiques, puis ensuite il n'y avait que quelques hauts lieux, puis ensuite un haut lieu ou deux hauts lieux. Et puis quand le Betamigdash a été construit, interdiction de tous les hauts lieux. Terminé. Et si vous voulez, vous pouvez continuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de Betamigdash, eh bien, il n'y a plus du tout de korbanot. Et que les korbanot, ils sont remplacés par la tfila, par la prière. Donc, il y a une espèce de descente, ou de montée plutôt, de montée vers une purification de toutes ces traces d'idolâtrie, en fait. Le grand pas, il a été fait au Sinaï, mais toutes ces tolérances qui vont en diminuant jusqu'à... Bon, maintenant, c'est... En tout cas, c'est aller jusqu'à ne permettre aux corbanotes qu'en un seul endroit au monde est soumis à toutes sortes de règles. Très limitatives. Mais enfin, bon... Les règles, je pense que ce n'est pas grand-chose, mais je crois que des règles, il y en a pas mal aussi dans l'idolâtrie aussi. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que c'est de plus en plus élagué, quoi, quelque part. Jusqu'à la disparition, bon, qui, elle, a un côté historique, quoi. Et ce même Rambam, il met les halakhot de Korbanot dans son Sefer d'Halakha. Ça veut dire qu'il pense que ça nous concerne encore. Ça veut dire qu'il pense que quand on aura de nouveau un Bet Hamikdash, il y aura une notion de Korbanot. Parce que sinon, il n'aurait pas dû l'écrire dans le Yad. Parce que dans le Yad, il n'y a que les halakhot qui sont Nogéa. Donc, en tout cas, lui, il n'a pas considéré qu'il y avait un progrès, si vous voulez, dans l'absence du Bet Hamikdash. Alors, le Rambam, dans les sources, il y a un midrash dans Vaikra Rabba qui dit que Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Lévi, dit « Parce qu'Israël était attaché à l'idolâtrie en Égypte, etc., et qu'ils allaient sacrifier au moins dans certains hauts lieux, cette raison, Hachem a dit « Laissons-les offrir des corbanotes, m'offrir des corbanotes à moi, tout le temps, et finalement, ils vont être quand même, par là même, séparés de l'idolâtrie et donc sauvés. » Le Ramban, au contraire, il pense que apporter des korbanot, c'est une façon de réaliser à l'intérieur de soi-même le fait que en fautant, on a en quelque sorte perdu un droit à la vie, en quelque sorte, qui nous a été donné par Hachem. Et donc, l'expérience de la shrita d'un animal, à la place de l'homme. C'est censé impressionner le bonhomme. Donc il a une approche beaucoup plus mystique. Parce que le problème, c'est quel sens est-ce qu'il faut donner à une expression comme Reach Nichoach Lachem, c'est-à-dire un parfum, une fragrance favorable, agréable à Hachem. Pour Ramban, c'est très clair que cette phrase, elle indique que c'est comme ça qu'on va amener l'homme plus proche d'Hachem. Plutôt que éloignez-vous de l'idolâtrie dont parle le Rambam. Ababanel, il est effectivement, il est à la fois étonné que Rambam ne mentionne pas les sources, en fait. En fait, il y a un passouk dans Yirmiya, enfin, c'est des psukim, deux psukim dans Yirmiya, dans lequel Yirmiya dit: je n'ai pas parlé avec vos ancêtres et je ne leur ai pas ordonné le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Je ne leur ai pas ordonné, je n'ai pas parlé de korbanot brûlés ou de shlamim ou d'olot. La seule chose que je leur avais demandé, c'est écouter ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et suivez la vie, suivez le chemin que je vais vous ordonner. Et ainsi, ce sera bien pour vous. C'est votre avantage. Il est clair que le korban prescrit, premier korban prescrit, c'est le korban Pessah, que le peuple a amené au moment, approché donc au moment de la sortie d'Égypte. Ce texte a l'air de dire que les korbanot n'ont jamais été considérés comme quelque chose de fondamental. Ils ont plus de valeur que la parole, qu'une autre parole d'Hachem. Alors que le Rambam a l'air de donner beaucoup d'importance à ce problème des korbanot. Alors, la première chose, le premier problème avec le Rambam, c'est que lui-même, comme je vous ai dit, dans Hilchot Melachim, il ramène les korbanot. Il parle de ramener les korbanot dans ce que le Mashiach va faire. Alors que lui-même, il dit que dans l'ère messianique, le temps de Mashiach, donc, c'est un temps où tout le monde connaîtra Hachem parfaitement, et donc pas une période dans laquelle on peut imaginer qu'il serait nécessaire de faire des concessions au paganisme, je veux dire. Le Rambam, il ignore complètement. Il y a des opinions dans le Rikra Rabba que les korbanot ne seront pas réinstallés. Bon, alors il y a bien des problèmes sur lesquels on ne va peut-être pas entrer maintenant, peut-être une prochaine fois. Est-ce que les corbanotes de Caïn et Abel, ils ont eu lieu à une période qui était avant l'idolâtrie. Adam, il n'était pas idolâtre, et Caïn et Abel n'étaient pas idolâtres. Ils ont apporté des corbanotes qui n'avaient rien à voir avec l'idolâtrie. Comment le Rambam peut dire que les corbanotes, c'est un résidu de l'idolâtrie? Bon, évidemment, certains répondent que les corbanotes qu'eux ont amenés, c'est Bikurim, les premiers fruits en quelque sorte. Donc, c'est pas vraiment des corbanotes. Alors, dans le Moré Nourim lui-même, le Rambam discute un peu la question du sens symbolique des korbanes, en particulier des korbanotes, d'un korban comme le korban chatat. Il explique comment un korban chatat peut réparer ce qu'on a cassé en faisant une faute. C'est sûr que ce qu'il en dit ici sur le Korban Khatat, c'est assez difficile à mettre en harmonie avec ce que le Rambam dit en général des Korbanot. Lui, Rambam, il dit que le korbanot, c'est seulement pour se. En fait, c'est une méthode pour se distancier de l'idolâtrie. Et on te permet des choses, mais de façon toujours de plus en plus limitée, en fait. Maintenant, ça va pas aller du tout si quand tu veux expliquer comment le khatat, il t'aide à obtenir le pardon de la faute que tu as faite. Ça n'a rien à voir. Alors, on verra peut-être la prochaine fois un peu comment c'est Rav Hirsch qui travaille beaucoup sur la fameuse symbolique et le sens donc des corbanotes. Je pense que on en parlera plus avant la prochaine fois. Le Rambam dit, pardon, c'est pas Rambam. Il y a encore un autre problème. Il y a un problème, c'est que le Corban, comme on a dit, c'est une démarche pour s'approcher d'Hachem. On a dit que le Corban, c'est radicalement différent les autres mitzvot. Parce que c'est vraiment la démarche d'approche. Alors que là-bas, c'est simplement, on fait la volonté d'Hachem, et du coup, on se trouve plus proche d'Hachem. Ça veut dire que les corbanotes, par eux-mêmes, ils ne font rien d'autre que permettre de s'approcher d'Hachem. Par contre, le mitzvah comme Shabbat, comme Tfilin, etc., celui qui fait cette mitzvah, même si il n'a pas pensé à quoi sert cette mitzvah, quel est l'impact de la mitzvah en question. Néanmoins, le kiyum ma'asé, le ma'asé, il est fait. C'est fait. Donc, la mitzvah, elle a été faite. Donc, l'impact de la mitzvah a lieu. Il n'est peut-être pas maximal parce que peut-être si la personne n'est pas à la hauteur, mais néanmoins, c'est bon. Par exemple, une pensée comme quelque chose qui existe que dans les corbanotes qui s'appelle pigoul. Pigoul, c'est, comme vous savez, les corbanotes, ils ont toujours un temps et un lieu précis pour être approchés complètement. C'est-à-dire, par exemple, il y a certains corbanotes qui doivent être approchés et il faut manger la viande, si, etc. On a 2 jours pour le faire. Si on dépasse, alors ça devient notard, ça devient interdit. Mais si le Kohen, quand il fait la avoda, quand il fait ce qu'il faut faire avec le korban, c'est-à-dire il fait l'aspersion du sang, etc., s'il dit que, il se dit, tiens, moi, ce korban-là, j'ai déjà beaucoup d'autres viandes à manger, je le mangerai dans 3 jours. C'est-à-dire en dehors de laps de temps imparti pour le manger. Ça devient pigoul. Et du coup, parce que c'est devenu pigoul, c'est possède le korban. C'est pas seulement que on n'a pas fait la mitzvah avec ce korban. La pensée, elle fait partie de la akrava, de l'avancée du korban. Et encore plus que ça. Donc, si on explique, effectivement, comme on l'a dit, qu'a priori, les corbanotes, ça ne peut concerner que des gens qui vont dans le chemin, dans la voie d'Hachem et qui veulent s'approcher réellement d'Hachem. Alors, on peut comprendre que le Navi Eshaya, par exemple, il dit sur les corbanotes des Rechaïm que c'est comme si on avait approché des animaux impropres. C'est comme si on avait approché un porc sur le Misbéach. Pourquoi? Parce que le Adam Amakriv, son corban, et il doit comprendre que ce qu'il est en train d'approcher, c'est le côté animal, son côté animal, en fait, devant Hachem. Et toute son intention, elle doit être d'arriver à s'approcher d'Hachem en éradiquant le côté trop animal qu'il y a en lui. Et donc, du coup, si quelqu'un apporte un corban et il n'est pas en train de l'approcher comme il faut, il continue dans son d'être dans le mauvais chemin. Donc, il est dans la contradiction entre ce qu'il est en train d'approcher et sa posture, sa position. Donc le Corban n'en est pas un. Il n'y a plus de Corban. T'es en train de... Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, tu es en train de tuer un animal pour rien du tout. Ça veut dire que tu as massacré un animal pour rien. La Torah nous a permis de tuer les animaux d'une certaine manière, etc., pour les manger ou pour les approcher comme corban. Mais elle n'a pas permis de tuer les animaux simplement pour son plaisir ou pour se calmer ou pour quoi que ce soit. Et si tu le fais, c'est considéré comme de l'arzariut, comme de la cruauté. Il y a des chazal qui ont l'air de dire que c'est pas tellement loin de verser du sang humain, ou de verser ce sang animal simplement pour rien du tout. Pour la Torah, imaginez une corrida, c'est impensable. C'est Ashkata et Arzariut. C'est marqué au sujet, vous savez, les Korbanot, comme je vous ai dit, il y a un endroit. Le Korban, il doit être fait dans tel et tel endroit, dans la Hazara ou ailleurs, etc. Et puis, il doit être fait dans un laps de temps bien donné. Et il y a une Avera qui s'appelle Shrute Chutz. C'est-à-dire qu'il y a un Korban qui doit être amené. Et au lieu d'être qu'on en fasse la shrita là où on doit le faire, à l'intérieur du Beit HaMikdash, on le fait à l'extérieur, dans n'importe quel abattoir ou dans les champs, peu importe. Bel shrut echut. Le pasuk dit à ce sujet-là, il dit « Dam yichashev la'ish ahu, dam shafach ». On considérera que c'est du sang versé. Rashi dit chez Aoseken ino que chauffer dam adam shemitrayev benafsho. Shrutechut c'est chayav mita. Pourquoi? Parce que dit Rashi, c'est comme de verser du sang humain. C'est dit sur Shrutechut. Vous voyez, c'est gravissime, parce que c'est pas seulement que la mitzvah est parfaite, c'est que tu as massacré un animal pour rien du tout. Tu as versé son sang et, comme dit Rashi, que chauffer dame à dame, dans Shrute Chutz. Alors que c'est une grande mitzvah de faire le korban comme il le faut, ça apporte des tikkunim, ça répare, ce que vous voulez, ça rapproche d'Hachem. Et si tu ne fais pas comme il faut, c'est comme de verser du sang humain. Bon, c'est sûr que ça ne nous fera pas obtenir les voix des aficionados de la corrida, mais quand on a dit que HaKadosh Baruch Hu haïssait le gezel dans les korbanot, ça veut dire, par gezel, on entend pas obligatoirement le type qui a vraiment volé en bonne et due forme. Mais l'exigence, elle est d'être comme dans la situation d'Adam Arishon. C'est-à-dire que d'être sûr que c'est vraiment à moi. Et peut-être que, imaginez que, je sais pas, quelqu'un a hérité, il sait pas si c'est vraiment à lui, etc. C'est contesté, mais ceux qui contestent, ils ont pas de vraies preuves. Donc ça reste chez moi, etc. Si quelqu'un est héritier, ça reste chez lui. Il va amener ce corban-là comme, cette bête-là comme corban. Ça se trouve, c'est Gazel. Lui, il n'en sait rien, mais c'est Gazel. Peut-être que la bête, l'animal en question, il appartient à quelqu'un d'autre. Seulement l'autre, il n'a pas les preuves pour le récupérer. Alors si la personne, elle sait que c'est à l'autre, alors ben, c'est évident que ce n'est pas bon. Mais même si elle ne sait pas, il n'est pas dans la situation d'Adam Arishon. Il approche quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc il y a besoin d'une extrême vigilance quand on veut approcher un corban, pour être vraiment sûr que c'est à moi. Il vaut mieux être, de ce point de vue-là, il vaut sûrement mieux aller l'acheter, quoi. Plutôt que d'utiliser celui qu'on a en héritage, etc. On va aller l'acheter en bonne et due forme, donc ce sera vraiment à soi. Voilà, on va s'arrêter là.